dans cet épisode du balado compte complet.
Écoute, le marché des troisièmes buts, là, il est assez mince. Fait le tour, là, puis il n'y en a pas tant que ça. C'est pour ça que le nom de Vlad Guerrero a été soulevé. Il n'y en a pas beaucoup de joueurs de troisième but disponibles qui frappent la droite.
Au jeu! Deuxième prise, compte complet.
Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à compte complet, Alain Huzreau en compagnie de Marc Griffin. On est à une semaine à peine du match des étoiles et du concours de coups de circuit. Les joueurs choisis ont été identifiés, que ce soit des partants ou encore les réservistes. Marc, grosso modo, surtout si je regarde la formation partante, je suis obligé de donner de grosses meilleures notes à la Ligue américaine.
Ben, je pense qu'on a tous tendance à aller de ce côté-là parce que je regarde la formation de la Ligue américaine. Bon, évidemment, c'est un match d'étoiles, donc vous allez dire que ce sont tous de très, très bons joueurs, mais je sais pas. Là, je regarde Rutschman, Vlad Guerrero, Altuve, Jose Ramirez, qui, ma foi, encore une fois, même si on le trouve bon, ça reste quand même un joueur, selon moi, qui est mésestimé. Gunnar Anderson, qui est fantastique. Judge, Juan Soto et Yordan Alvarez, qui agit comme frappeur de choix. J'aime voir un Stephen Kwan mélangé à tout ça. C'est pas le frappeur de puissance, mais c'est le gars qui met des balles en jeu, qui fait tout bien sur un terrain, qui court bien les buts, qui joue bien en défense. Qu'un QI baseball plus élevé parce qu'il, tu sais, il se fait jamais prendre sur un jeu quelconque, que ce soit en défense ou en attaque. Donc, c'est sûr que la Ligue américaine, au départ, paraît plus solide. Si on regarde la nationale, c'est vraiment pas mauvais, mais ce que je viens de vous dire, puis on compare ça à William Contreras, qui est le receveur. Bon, Bryce Harper, évidemment, au premier but. Ketel Marte, Alec Baum, Trey Turner. Donc, on n'a rien à redire de ces gars-là. Là. C'est excellent. Oui. Mais c'est un petit peu plus difficile. Profar, Fernando Tatis Jr. et Christian Yelich, les voltigeurs, et Shohei Ohtani, qui sera le frappeur de choix. Donc, effectivement, là, je pense que c'est assez frappant là, en termes, bon, sur papier, là, la Ligue américaine, au départ, me semble supérieure.
C'est ce que je pense. Position par position, j'ai jeté un petit coup d'œil, là, puis il y a peut-être Ohtani et Harper, je te dirais, qui auraient le dessus sur Alvarez et Guerrero, puis Alvarez, parce qu'il n'y a pas de mauvaise saison, mais Ohtani en a une supérieure. À part ces deux-là, l'américaine, je trouve, en tout cas, tu regardes les trois voltigeurs, ça, à mon avis, ça se compare pas, là, quand tu regardes ça comme il faut. Là. Si on y va position par position, là.
Mais oui, absolument. Je pense que tu as raison. Par contre, ouais. Bon, ça joue sur le terrain. Puis les lanceurs vont aussi dicter un peu parce que j'ai toujours cru qu'un meilleur lanceur va quand même toujours être meilleur qu'un meilleur frappeur. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, les lanceurs vont. Ouais. Un lanceur qui est en pleine possession de ses moyens va avoir l'avantage sur un bon frappeur, évidemment.
Bon, on dit qu'il y a 32 joueurs qui en sont à leur première participation. Mais je regarde le nombre de lanceurs, Marc, qui en sont à leur première participation. C'est plutôt impressionnant. Un passage du bâton là, qui n'est pas surprenant dans un certain sens.
Le baseball a rajeuni. Les lanceurs aussi. Tu vois que effectivement, les jeunes arrivent avec des bras incroyables et ça fait en sorte que soudainement, ben, ils ont un impact immédiat. Tu sais, je regarde juste dans la Ligue américaine, Garrett Crochet, bon, écoute, on sait à quel point ce gars-là lance avec efficacité, mais lance des balles rapides de feu. Logan Gilbert aussi. Là, je parle des joueurs qui sont à leur première sélection. Ouais. Mason Miller, évidemment, là, tu sais, si on parle de balles rapides de feu, c'est le fun de voir Cole Reagans qui est là. Tarek Subal, puis on en avait parlé, un joueur qu'on l'avait même pu surveiller à titre de gagnant du trophée Cy Young. Et une petite exception de jeunes joueurs, mais qui en sont sur leur première sélection, c'est Seth Lugo dans la Ligue américaine. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Et de l'autre côté, tu as raison de mentionner, Alain, que c'est fascinant de voir des joueurs à leur première sélection. Tyler Glasnow.
Mm-hmm.
Surprenant quand même. Bon, Jeff Hoffman qui est là. Imanaga, ouais. Bon, on se rappelle évidemment ses débuts fracassants avec les Cubs. Reynaldo Lopez qui est une des belles surprises des Braves d'Atlanta. Encore une fois, je me répète, ce sont tous des joueurs qui en sont leur première sélection. Tanner Scott avec les Marlins. Matt Stram. Ouais. Qui n'est pas une jeunesse, mais que, bon, Alain, t'en parles souvent comme un des joueurs les plus efficaces dans le baseball. Suarez, les deux Suarez, Ringer et Robert Suarez qui sont là. Logan Webb, année à sa première, imaginez. Et Paul Skenes, évidemment. Quel dernier 12 mois pour Paul Skenes qui a à peu près tout gagné, ce que tu peux gagner comme joueur. Alors, effectivement, c'est ce qui frappe le plus de cette édition 2024 du Match des Étoiles, c'est le nombre de joueurs qui en sont leur première, le nombre de lanceurs qui en sont leur première sélection.
Oui. Et je veux juste ajouter parmi les vétérans, tu as parlé de Lugo, mais je veux ajouter Tyler Anderson, Marc, dont le nom circule dans les rumeurs de transactions et connaît une très, très bonne saison. En fait, un peu à l'image de ce qu'il avait fait sa dernière année avec les Dangereuses de Los Angeles. Moi, j'ai l'impression que lui, écoute, le prix demandé va être assez élevé si on veut se renforcer.
Écoute, le prix va être élevé, peu importe la position en ce moment. Il y a trop d'équipes actuellement qui sont prêtes à acheter. Évidemment, la demande au niveau des lanceurs, que ce soit partant ou releveur, est très élevée. Les autres, c'est plus spécifique par équipe, mais lanceur partant qui vous donne des manches de qualité, Alain, ça court pas les rues présentement parmi les équipes. Bon, qui en arrachent ou qui ne seront pas des séries. Donc, c'est sûr qu'Anderson est en haut de la liste de bien des équipes actuellement, là.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, Marc. En tout cas, écoute, il reste 3 semaines encore avant la date limite de transaction. Il va se passer des choses. On y reviendra dans quelques instants. C'est le temps de penser à la carte de la semaine. Vous comprendrez que le thème, c'est le match des étoiles. Bon, ce match des étoiles, la première édition, c'était, imagine-toi, en 1933. Moi, ça m'étonne qu'il n'y en ait pas eu avant de ce match des étoiles. Si tu me demandes bien franchement, là, je suis un petit peu surpris. Mais regarde, c'est une tradition qui a évolué. La carte de baseball de la semaine, qui est une présentation de cartesdudon.ca. C'est pas détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 14 000 articles en vente sur eBay. On s'est arrêté sur Lefty Gomez. Qui est Lefty Gomez? C'était un lanceur vedette des Yankees de New York dans les années 30, vous comprendrez. C'était le lanceur gagnant du premier match des étoiles dans l'histoire du baseball en 1933. Où avait lieu ce match? Au Comiskey Park de Chicago. Pourquoi là? Parce que c'était à l'initiative d'un journaliste d'un journal de Chicago. C'est tout simplement pour ça que le match avait eu lieu à cet endroit. Donc, la carte de Lefty Gomez de la série DeLong Gum R333, probablement pour l'année. C'est la carte numéro 14. Il n'y avait pas beaucoup d'informations derrière la carte, sinon quelques instructions là, sur comment lancer une balle et tout ça. C'était pas très, très gros, là. 5 cm par 8 à peu près, cette carte-là. Et ce qu'on voyait à l'endo, bon, avant d'avoir d'autres informations, ça a pris du temps. C'est juste que c'est assez clair que la clientèle visée, c'était les jeunes à ce moment-là, tout simplement. Marc, tu te rappelles des cartes de baseball, de ce qu'on avait derrière, là? Bon, on avait des petits bonhommes avec la bulle, la gomme ballon qui allait avec. Donc, ça a évolué au fil du temps. La gomme ballon a disparu, mais pas les informations qui sont derrière.
Mais ce que je me demande, Alain, puis on parle de match d'étoiles, et là je lance ça là, sans avertissement, mais Claude Raymond a participé au match des étoiles en 1966 avec les Astros de Houston. Ouais. J'imagine qu'il doit y avoir une carte de baseball de Claude Raymond qui a participé au match des étoiles, mais je souligne ça parce qu'évidemment, je trouve que c'est un fait d'armes tout à fait exceptionnel, surtout à cette époque-là pour Claude, et soit dit en passant, on a eu la semaine passée Vincent Gagnon qui nous parlait de la classique Claude Raymond là, qui a eu lieu au cours du dernier week-end. Alors, en passant, félicitations à l'équipe des Rouges qui a remporté le titre. Mais tout ça pour dire que c'est une belle histoire, le match des étoiles du baseball, parce que, bon, là, j'ai parlé de Claude Raymond, tu as parlé des débuts. Ça reste le match d'étoiles, il faut se le dire, Alain, tu sais, le plus réel, dans le sens qu'il n'y a pas de contact physique. Le lanceur veut bien paraître, le frappeur veut bien paraître, le joueur en défense veut bien paraître, donc on se donne. Et je pense que c'est ça que les gens apprécient du match des étoiles, c'est qu'on se donne et ça fait partie, je pense que ça fait partie des éléments où le match des étoiles de baseball est quand même celui qui est le plus réel parmi, si on les compare, parmi les sports importants.
Oui, et juste souligner, Marc, que tu parlais de Claude Raymond, il y a un Canadien qui participe au match des étoiles qui a été sélectionné cette année. Il s'agit de Josh Naylor avec les Guardians de Cleveland. C'est une sélection qui est fort méritée. Lui et Ramirez là, qui transportent cette équipe à l'attaque.
Alain, on rappelle aux gens, évidemment, notre commanditaire principal, le Plan de Match, c'est cette magnifique boutique de baseball située à Boucherville. Alors, non seulement boutique, cage de frappeurs, il y a également des cours privés qui se donnent ici. Alors, tout ce que vous avez besoin pour le baseball, que vous soyez un gérant, un instructeur, un joueur, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez utiliser la boutique en ligne également, la boutique planmatch.com. Et évidemment, je vous rappelle, la meilleure manière pour nous rejoindre ou en fait savoir ou nous écouter ou nous regarder, bien, allez sur notre site internet www.comptecomplet.com.
Bon, trois semaines avant la date limite de transaction, Marc, on pensait peut-être parler de plus de transactions à cette date-ci. Il n'y en a que deux qui ont été effectuées, dont une au cours des dernières heures, très mineure, là, Austin Slater, qui a été échangé aux Reds de Cincinnati par les Giants de San Francisco. Écoute, on ne verra pas là, le baseball à l'envers avec ça. Aaron Civale, Marc. Si on a écouté notre dernier balado, on avait mentionné que les Rays probablement chercheraient à s'en départir. Ça donnait bien, les Brewers ont besoin d'un lanceur partant. Là aussi, du côté des Brewers, c'est qu'on cherche des lanceurs qui lancent des manches.
Bien, effectivement. Severly a quand même une feuille de route intéressante. Ouais. C'est un des rares lanceurs qui se retrouve avec les Rays et que ça va moins bien. Souvent, tu te retrouves avec les Rays, on dirait que tu augmentes ta valeur au niveau des... du rendement, mais ça n'a pas été le cas pour Severly. Vous donne des manches, tu l'as dit, c'est ce que les Brewers recherchaient. C'est pas, encore une fois, des transactions majeures. Et Alain, j'ai l'impression que plus on attend, plus ça va coûter cher, dépendamment des besoins de chacune des équipes. Puis là, ben, entre-temps, il y a des équipes qui sont en train de se positionner encore mieux. Je regarde la poussée des Cards de Saint-Louis, je regarde la poussée des Astros de Houston dans les derniers... les derniers 10-12 jours, 10-12 matchs même, et là, on se positionne davantage, genre d'équipe qui pourrait être un peu plus agressif aussi, donc ça s'ajoute à des équipes comme les Yankees, comme les Mets peut-être, les Red Sox qui vont très, très bien, là, soudainement, est-ce que on pourrait bouger, se donner un petit peu plus de profondeur? Je trouve que c'est en train de se bâtir comme ça va peut-être exploser tout ça, là, avant la date limite qui est le 30 juillet à 18h, heure de l'Est.
Bon, parlons des Yankees, Marc. C'est une mauvaise période. Ça fait 7 séries de suite qu'on ne réussit pas à gagner. Le mieux qu'on a fait, c'était contre les Blue Jays. On a partagé les honneurs d'une série de 4 à l'étranger. On n'a pas gagné cette série-là. On a été balayé par les Reds de Cincinnati au début de la semaine. On parlait des ennuis à l'attaque. Là, Clay Holmes commence à avoir de la difficulté. Les partants sont moins efficaces qu'ils l'étaient en début de saison. Là, Judge, écoute, c'était Superman au cours des 3 premiers mois de la saison. Je pense pas que Judge puisse maintenir un rythme comme celui-là pendant toute la saison. Là, on s'en va où chez les Yankees? C'est sûr qu'on restera pas les bras... En tout cas, je pense pas qu'on reste les bras croisés. Et particulièrement, ben... Bon, là, il y a l'attaque, la relève, il y a les deux. Les partants, on n'est pas blessé, on va lancer des manches. Lewis Gill, c'est rassurant ce qu'il a fait en fin de semaine. On va dire la même chose de Rodon, Cole qui revient. Bon, on fait quoi, là? Il me semble qu'il faudrait que ça frappe un peu plus. Moi, je me semble que c'est ça, là, la priorité.
Ça prouve une chose, Alain, puis là, je ne veux pas comparer les deux équipes, mais... Même si Judge puis Soto sont en santé et ils vont très, très bien. Tu regardes les statistiques des deux, ça va bien. Mm-hmm. Puis mettons qu'on maintient là, ce qu'ils sont capables de faire. Là. Ça me fait penser, moi, à Trout et Otani avec les Angels à l'époque. Tu sais, vous avez parmi les deux meilleurs joueurs au monde. Ça garantit rien. Là. C'est une équipe. Ça prend 26 joueurs. Ça prend un bon personnel de partant. Ça prend des releveurs qui sont efficaces. Puis ça prend un support à l'attaque. Mais... Le baseball, oui, c'est un sport d'équipe très individuel, mais tu peux pas à toi seul faire en sorte, ou même à deux joueurs, transporter une équipe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beau avoir Judge puis Soto, lorsque Stanton était là, ben, il y avait une pas pire saison. Stanton était capable d'appuyer ce que les autres faisaient, ramassait ce que les autres laissaient. T'avais Volpe qui allait très, très bien en début de saison. T'es constamment sur les sentiers. Oups, Volpe va beaucoup moins bien. Stanton, malheureusement, tel qu'anticipé, est sur la liste des joueurs blessés. Rizzo n'avait pas une très bonne saison. C'était un peu plus difficile. Torres, c'est toujours le point d'interrogation. Le Maillot était blessé, il est revenu. C'est pas super. Donc, tu regardes l'attaque. On a regardé la formation au cours du week-end. Oui, ils ont marqué quoi, 14 points dans un match face aux Red Sox, mais on fait pas wow. Puis là, heureusement que Ben Rice est arrivé, ça donne un petit coup de main. Donc, autrement dit, là, T'sais, ça va prendre soit un réveil d'une couple de joueurs autres Soto ou Aaron Judge. Et au monticule, ben là, Alain, écoute, le début de saison, on ne pouvait pas maintenir le rythme qu'on faisait comme partant. Donc, les partants font un travail honnête. Je pense qu'on réalise que la profondeur en termes de releveur de fin de match, il y a quand même des bons bras là, dans l'enclos. Mais en fin de match, si Clay Holmes connaît un petit peu de le passage à vide qu'il connaît, oups, on se retrouve vraiment plan B ou C là, avec cette façon de faire là. Donc, tu sais, il y a plusieurs qui avaient placé les Yankees troisième dans la division, je parle en début de saison. Puis là, ils nous ont surpris en jouant du baseball fantastique au cours des deux premiers mois. Là, on dirait que c'est en train de les rattraper. Là. C'est plus difficile. Donc, c'est la date limite qui s'en vient. Et là, Alain, le problème, tu l'as mentionné, c'est qu'on met les efforts où, là? Est-ce qu'on met les efforts pour aller chercher un autre releveur de fin de match? Est-ce qu'on met des efforts pour aller chercher, selon moi, un joueur de troisième but? Je pense que Ben Rice a peut-être réglé un petit problème, en tout cas certainement à court terme, au premier coussin en attendant le retour de Rizzo. Mais ça reste qu'il y a des failles là, présentement dans cette formation des Yankees. Et je pense que elle est les failles sont exposées actuellement dans le rendement de l'équipe au cours des dernières semaines. Là, il va falloir prioriser parce qu'on ne pourra pas faire 8 transactions là, à un moment donné. Là.
Ben moi, j'ai l'impression que c'est à l'attaque qu'on a besoin d'aide. Les partants, comme je le mentionnais, Gill, son dernier départ, c'était dimanche, c'était très bon contre les Red Sox de Boston. Rodon, intense, mais bon, lui, évidemment, c'est son passé de blessure là, qui fait en sorte qu'il y a une certaine inquiétude. Cole, ça va prendre un peu de temps, j'ai l'impression, Marc. Son match contre les Red Sox dimanche, les Yankees ont gagné 14-4, mais ce que j'ai vu, c'est un Cole qui était lent. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de rythme. Puis d'ailleurs, il n'a pas lancé 5 manches. C'est pas lui qui est impliqué dans la décision dans ce match. Donc, tu comprends? Mais les Yankees, il faut que ça frappe. C'est pas compliqué, là. C'est une équipe traditionnellement qui est bâtie pour frapper. Puis il y a des positions où, que présentement, on n'en a pas de production. Verdugo, ça a baissé. On n'en parle pas beaucoup, mais Verdugo ne produit pas à la hauteur des attentes, assurément pas. Puis si on est capable d'avoir un joueur de troisième but, préférablement droitier, je te dirais. C'est pour ça que Ryan McMahon, c'est bien beau, mais là, tu ajoutes un autre gaucher. C'est pour ça. Écoute, le marché des troisièmes buts, là, il est assez mince. Fait le tour, là, puis il n'y en a pas tant que ça. C'est pour ça que le nom de Vlad Guerrero a été soulevé. Il n'y en a pas beaucoup de joueurs de troisième but disponibles qui frappent la droite.
Non, c'est pour ça là, que c'est pas évident là, chez les Yankees. De prioriser. T'as raison, moi je pense que c'est à l'attaque. Mais un peu comme les équipes qui sous-performent, là, c'est que les attentes sur Verdugo étaient plus élevées, tu l'as dit. Le rendement de Volpe, moi je crois beaucoup en ce joueur-là, là, mais le rendement de Volpe est trop en dentis présentement. Ouais. Là, donc ça devient difficile. Les passages à vide sont très longs. Lorsqu'il va bien, il va très très bien, mais lorsqu'il tombe dans un passage à vide, t'as l'impression que ça va être difficile de s'en sortir. Donc, ça prend un petit peu plus de constance et c'est là qu'on a besoin chez les Yankees parce que Judge et Soto vont vous donner un rendement constant, mais je me répète, si c'est juste ces deux gars-là qui vont bien, ça ne pourra pas marcher. Là. Et alors, ça prend l'appui des autres. Les autres équipes vont dire, écoute, on ne lance rien de bon à ces deux gars-là, puis on va courir le risque pour les 7 autres. Là. Donc, les Yankees ont du travail à faire. Ils se sont donné un très beau coussin. Alors, on peut se permettre, entre guillemets, là, d'avoir ce passage à vide, mais là, avec la date limite des transactions, la pause du match des étoiles, là, il serait temps qu'on trouve le moyen de se mettre en marche parce que il y a seulement 3 défaites qui séparent les Yankees aux Red Sox. Là. Ça va se resserrer. Les Astros, Alain, pourraient créer quelque chose d'intéressant et se faufiler dans la course parmi les équipes repêchées. Ça prendrait juste une autre équipe qui soudainement va bien puis que là, ça va créer, peut-être un classement des équipes repêchées pas mal plus serré qu'anticipé. Puis je pense pas que les Orioles vont s'en vont vers le bas, là, dans le sens que j'ai l'impression que Baltimore va continuer de bien jouer et peut-être même s'améliorer, surtout si eux aussi vont chercher éventuellement un lanceur partant. Donc, c'est pour ça que ça rend ce fameux mois de juillet. Pas mal de fun à surveiller, là, étant donné les besoins de nombreuses équipes.
Bon, Marc, chez les Blue Jays de Toronto, il y a 6 joueurs qui deviennent joueurs autonomes à la fin de l'année. Compte tenu de la situation, on pense que ça va bouger. Bichette, Guerrero, on en a parlé amplement. Les 6 joueurs autonomes, on va commencer par les 3 lanceurs. Garcia, Richards, Kikuchi. Écoute, dans le cas de Garcia, il y a un doute quant à son bras sur la liste des joueurs blessés. Moi, j'ai l'impression que Trevor Richards, je pense pas qu'on ait grand-chose pour lui, mais j'ai l'impression que la demande pourrait être élevée et Kikuchi, c'est un lanceur partant. Donc, je ne sais pas comment tu vois les choses, là, mais je pense que Richards, je serais surpris que Richards soit encore avec les Blue Jays au mois d'août. Là.
Ouais, ben c'est sûr qu'en venant joueur autonome, là, évidemment, si on va avoir quelque chose pour ces joueurs-là, aussi peu soit-il, ben ouais. C'est maintenant qu'il va falloir les échanger. Sinon, ben on va les perdre sur le marché, à moins qu'on ait des plans pour Kikuchi chez les Blue Jays. On verra bien, là, mais ce sont tous des joueurs. Garcia va revenir, mais effectivement, le fait que là, présentement, ça fonctionne moins bien, en fait qu'il est blessé, on verra ce que ça va donner. Mais oui, tous les joueurs, tous les lanceurs, Alain, qui deviennent joueurs autonomes sont sur une liste présentement. Ça c'est évident parce que c'est les gars qui vont coûter un peu moins cher. Tu sais, tu veux transiger pour Garrett Crochet, vas-y, mais là, ça va te coûter un bras et une jambe. Mais si tu veux transiger pour un Kikuchi, pour un gaucher qui lance aussi des balles rapides à 96-17 000 à l'heure, ah, là, t'as peut-être, tu sais, si c'est un emprunt, entre guillemets, là, à ce moment-là, c'est des joueurs qui deviennent intéressants. Donc, tous ces joueurs-là, t'as parlé des 6 des Blue Jays, tu viens de parler des lanceurs, les autres sont quoi? Kiermaier,
Justin Turner et Danny Jansen.
Bon. Alors, tu sais, probablement que Kiermaier, je sais pas quelle est la demande pour lui, Turner, probablement pas très élevé, mais le fait qu'il est un vétéran qui a gagné, peut-être. Ouais. Et je pense que les Blue Jays ont des plans éventuellement pour Jansen. Mais si tu as des plans pour Jansen, t'es mieux de négocier rapidement parce que sinon, il va tester le marché puis tu risques de le perdre. Alors, les Blue Jays, là, c'est vraiment pas facile d'être dans leurs souliers présentement parce que le défi est énorme. Qu'est-ce qu'on fait évidemment avec Vlad et Bichette? On en a parlé beaucoup. Mais là, on se positionne où? On n'a pas un réseau de filiales qui est garni, Alain. On a des lanceurs partants, mais qui sont vieillissants. On les a sous contrat. On est pris avec un George Springer. Est-ce que Springer, qui va d'ailleurs beaucoup mieux, est-ce que sa valeur vient d'augmenter soudainement avant la pause, avant la date limite des transactions? Mais la question, c'est qu'on s'en va où, là, tu sais, dans le sens que elle est pas facile à répondre, cette question-là, du côté des Blue Jays.
Bon, écoute, c'est le temps de la question de la semaine. On en a discuté. C'est une présentation de Sidmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. On vous invite à consulter le www.sidmar.ca. Quelle devrait être la priorité des Yankees de New York? Donc, un releveur, un partant ou encore de l'aide à l'attaque? Envoyez-nous vos commentaires à propos de cette question sur notre site Internet compte complet. balado.com ou encore sur notre page Facebook, facebook.com/compte-complet-balado.
C'est le moment de notre segment Baseball Québec et aujourd'hui, on est très heureux de recevoir, c'est le président de la classique Bob Bissonnette, un magnifique tournoi dans la région de Québec, Daniel Fleury qui est le président. Salut Daniel!
Salut, ça va bien?
Ben oui, ça va très bien, merci. Écoute, Daniel, je sais qu'on vient de passer la première étape du tournoi, qui était la classe A et le baseball féminin. Et là, la semaine prochaine, ben, ça va être la classe 2A. La classique Bob Bissonnette, c'est venu comment, Daniel? Comment on a décidé d'aller avec un des beaux tournois, d'ailleurs, au Québec? C'est venu comment, cette idée-là?
Écoute, c'est venu de la COVID. Fait qu'on ne peut pas dire que ça aurait juste eu du négatif. En 2021, alors que Baseball Québec avait annoncé que les équipes devaient faire un seul tournoi, donc cet été-là, à quelque part au mois de mars, là au mois de février, ça avait un petit peu changé les plans de plusieurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, maintenant, on avait la permission de faire plus de tournois. Donc, un deuxième tournoi dans l'été, il n'y en avait pas. Donc, les tournois étaient complets ou avaient été annulés. Donc, on a décidé d'aller de l'avant avec 10 équipes dans le 2A seulement. Donc, en 2021, la première édition, 10 équipes 2A. Puis maintenant, cette année, 68 équipes vont prendre part déjà à la classique, à la quatrième édition.
Ben, exactement. C'est magnifique parce qu'on utilise... Bon, d'ailleurs, vous utilisez le terrain des Capitales de Québec, donc le Stade Canac. À quel endroit exactement, là, parce qu'il n'y a pas juste le Stade Canac où le tournoi se déroule, là?
On utilise là, on a 5 terrains qu'on utilise cette année, donc on favorise les gazons synthétiques parce qu'on sait que quand tu es organisateur de tournoi, puis on a un beau samedi matin comme on a eu cette année avec des parties à replacer, c'est beaucoup plus simple, là, les terrains sont efficaces, sont capables de boire de l'eau, puis on recommence tout de suite après à jouer. Fait que le parc Henri Cazot et le Stade Canac sont nos 2 terrains synthétiques. Puis on a une association avec VBAL, qui est une association régionale, on a utilisé leur terrain. Et leurs bénévoles aussi, leur personnel. On utilise aussi le parc Victoria qui est tout juste derrière le Stade Canac, fait que c'est pratique d'avoir 2 terrains sur le même site.
Tu as parlé d'une 60aine d'équipes, Daniel, des équipes d'un peu partout au Québec. Comment ça grossit tout ça? Est-ce qu'on a des équipes de l'extérieur?
Oui, bon, dans le volet A et féminin, c'était des équipes exclusivement du Québec. On favorise que toutes les régions du Québec soient représentées. Donc, on a beaucoup d'inscriptions. Hein. Cette année, j'ai refusé là, une 30aine d'équipes de A. Il y en a de partout. J'aurais pu combler le tournoi juste avec des équipes de la région de Québec. Il y a tellement d'équipes ici. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que quand tu affrontes une équipe, c'est une équipe que tu n'as pas affrontée dans ta saison régulière, qui n'est pas dans ta ligue. Donc, on va concevoir les poules en fonction là, de la géographie pour pas justement avoir des affrontements que tu vas avoir en saison régulière. Donc, on avait dans chaque poule une équipe de Québec, une équipe de la rive sud de Québec, puis 2 équipes extérieures. Donc, ça va jusqu'à Gatineau, ça va jusqu'à Sherbrooke, évidemment Laval, on passe là, puis je nomme juste ces régions-là, là, mais il y avait vraiment des équipes de partout au Québec, puis aucune de la même ligue était dans le même pool. Donc, c'est le fun de jouer 3 parties assurées contre des équipes que tu connais pas.
Alain, tu as une question?
Oui, ben écoute, pour avoir travaillé en région un peu et connaissant des défis qui entourent justement l'organisation de tournois, je pense à la Côte-Nord là, spécifiquement, là, où bon, il y a quelques équipes. C'est toujours un défi pour eux d'attirer du monde et évidemment, eux, d'aller ailleurs. Vous tentez de les attirer comment? J'imagine que vous avez déjà des infrastructures pour accueillir ces jeunes-là sur place?
Non, on veut que les équipes soient autonomes. On ne veut pas nécessairement les offrir des familles d'accueil. Fait qu'on offre des opportunités avec nos partenaires hôteliers. On a un partenaire aussi qui peut louer des maisons, des gros chalets, donc où on peut loger plusieurs familles au même endroit, puis ça revient là quand même à des coûts très abordables. Maintenant, quand on veut favoriser que ces équipes-là viennent, ben des fois c'est de faire des regroupements de joueurs. Par exemple, on en parlera peut-être un petit peu plus tard là, suite au désistement de Cuba, on va récupérer un regroupement de joueurs de l'Abitibi qui vont former une équipe pour venir se mesurer aux autres. Donc, ça, c'est des, sans dire un contournement, là, mais c'est des règlements qu'on est capable de faire, de jouer avec pour permettre à ces régions éloignées-là, où le calibre est peut-être un petit peu plus dilué sur un très, très grand territoire, de participer à la Classique.
Et Daniel, le défi pour la Classique dans les prochaines années, ce serait quoi? Parce que tu nous as dit à quel point ça a déjà passé là, d'une dizaine d'équipes à une 60aine d'équipes. On va aller jusqu'à où avec cette Classique Bob Bissonnette?
Bon, le terrain synthétique de Saint-Émile, là, au parc Réal-Cloutier, il est en construction actuellement. La construction est même pas mal avancée. Donc, c'est un terrain supplémentaire synthétique. Donc, un très, très beau site qui va être un terrain de dimension Pee-Wee. Qui va être une belle dimension pour jouer au Pee-Wee. Fait que c'est certain qu'on vient d'ajouter un terrain de fun. Le défi reste toujours d'offrir une partie à toutes les équipes au Stade Canac. Donc, sur 4 jours, on va rester limité quand même là, à combien de parties qu'on est capable de jouer au Stade Canac, combien de parties qu'on est capable d'offrir à chacune des équipes, parce qu'on se le cachera pas, c'est ça là, qui est le cachet particulier de venir jouer dans le stade mythique de Québec, des capitales, qui offre, tu sais, je veux dire, le jeune arrive au bâton, hein, sur l'écran géant, il y a son nom, il y a sa position, il y a ses 7 dernières présences, il y a ses statistiques du tournoi. Tu sais, on donne vraiment un gros show parce que la technologie nous le permet, le stade nous le permet. Fait que la limite se trouve là, mais plus ça va aller, puis écoute, est-ce qu'on va se multiplier, est-ce qu'on va faire des petits cousins, puis que ça sera un autre organisateur qui prendra un petit cousin pour d'autres tournois, pour maximiser le nombre d'équipes par semaine. C'est des réflexions qu'on va avoir après cette année, parce que, comme je disais, refuser 30 équipes de A, c'est plate, mais en même temps, d'avoir beaucoup de demandes, ça nous permet d'avoir toutes les régions représentées. Fait qu'on on est ambigu là-dedans. On veut maximiser, puis on veut pas non plus demander aux familles du Québec de se déplacer pour 5 ou 6 nuits à l'hôtel. Fait qu'on veut limiter le tournoi sur 4 jours. Puis, ben, vous le savez, là, pour les bras des lanceurs, tout ça, on peut pas demander non plus là qu'ils viennent jouer 8-9 matchs là, nécessairement. Alors, c'est toutes des choses qu'on regarde, qu'on essaie de maximiser. Mais difficilement, on va avoir de la difficulté si on reste sur 2 semaines à avoir plus de 70 équipes, c'est certain.
Et Daniel, évidemment, ça se fait pas tout seul un tournoi de même. J'imagine que tu as tout un personnel de bénévoles qui t'appuie dans ça, là.
C'est l'enfer. Sans eux, il se passerait rien, là, on se le cachera pas. Puis c'est le défi. Tantôt, tu me demandais c'était quoi le défi. Ça reste un des défis les plus importants, c'est de trouver des bénévoles, trouver des gens qui veulent s'investir pour une cause qui est plus grande qu'eux, qui veulent redonner. Beaucoup, c'est des anciens joueurs de baseball qui ont participé à des tournois, qui ont trippé dans des occasions spéciales comme ça. C'est eux qui vont dire, puis ils viennent me dire, moi, j'ai trippé. Maintenant, mes enfants sont rendus un petit peu plus loin dans le baseball parce que les parents qui ont des jeunes dans le baseball en ce moment, ils ont de la misère à donner du temps. Là. Ils sont en train de faire des lifts ou sont dans un autre tournoi à l'extérieur où ils participent au tournoi. Fait que c'est des gens qui, après que leur enfant est passé ou est rendu un petit peu plus loin dans leur parcours, rendu midget, qui vont venir redonner du temps. Fait que le défi est là. En multipliant le tournoi sur 2 semaines cette année, c'était certain que je vais pas demander à des bénévoles de consacrer 2 semaines consécutives là-dedans. C'est beaucoup. Alors, c'est de là qu'est venue l'association avec VBAL, l'association régionale, qui, eux, ont fourni des bénévoles pour la première semaine. Fait que c'est une bonne façon de faire. Puis, évidemment, c'est une première, donc il va y avoir des ajustements, mais je pense que c'est une formule qui est gagnante pour nous, là, puis qu'on va aller de l'avant là, pour la continuité avec ça.
Et en terminant, Daniel, pour une troisième année, il y aura une association avec RDS pour présenter les finales de la classique Bob Bissonnette.
Ouais, donc les trois finales, là, le tournoi 2A va être divisé en trois divisions. Ça se dit mal, hein, divisé en trois divisions. La division 1, division 2 et division 3. Fait que c'est toutes les équipes 2A de la province qui vont être présentes, sans exception. Donc, il y a 33 équipes de la province de Québec 2A, ils vont tous être au tournoi, plus 3 autres équipes, donc on a une équipe de l'Ontario, on a une équipe de la France, et on a une équipe, donc le regroupement de joueurs de l'Abitibi qui va venir joindre pour avoir un beau tournoi à 36 équipes, 3 divisions de 12 équipes, pour avoir là, un nombre de matchs optimal, tu affrontes toutes les équipes dans ton pool pour passer à l'étape suivante. Donc, c'est la structure qui s'en vient, c'est la continuité qu'on va avoir, la beauté de ça, les sourires en fin de semaine, c'était incroyable. Puis là, ben, l'objectif de se rendre en finale pour pouvoir être vu à la télé, à RDS, c'est gigantesque. Je veux dire, les années précédentes, les émissions continuent d'être regardées de plus en plus parce que le jeune qui a vu ça des années précédentes, que c'était son association, il sait que peut-être ça va être lui. Donc, les émissions qu'on met en ligne continuent d'être regardées de plus en plus. Fait que ça donne un petit plus, une grosse collaboration. Ça reste que c'est le seul événement de baseball mineur qui est présenté à télé nationale. Fait que c'est, pour nous, là, c'est une grande fierté de pouvoir présenter ça, d'être capable de générer assez de revenus, autant pour louer les installations exceptionnelles du Stade Canac, du Parc Cazaux, que de faire venir une équipe de tournage. T'sais, tout ça, c'est gros. Ça s'en vient encore plus gros. Ça demande beaucoup de structure. Fait qu'il faut qu'on continue dans cette veine-là. Faut qu'on continue de procurer des expériences exceptionnelles parce qu'il y a plein de petits jeunes joueurs de baseball en fin de semaine qui vont peut-être jouer au baseball plus longtemps dans leur vie à cause de l'expérience qu'ils ont vécue. Donc, c'est ça le plan, c'est ça l'objectif. Et tout ce qu'on est capable de mettre de plus, tous les petits extras, tous les détails, on essaye d'y penser, on essaye d'être meilleur d'année en année. Puis, RDS fait grandement partie de cette, si on peut dire que le tournoi est spécial. Ben, RDS en est clairement une caractéristique importante.
Ben, écoute, Daniel, premièrement, merci beaucoup pour ce temps et félicitations pour cette implication. Je sais le travail que ça demande, surtout d'être président d'un tournoi de la sorte. Alors, bravo pour ça, bravo pour le temps que tu mets, bravo pour les bénévoles. Meilleure des chances pour la prochaine semaine. Félicitations aux équipes qui gagnantes et qui ont participé au tournoi au cours de la dernière semaine. Et écoute, on va se voir au Stade Canac. Personnellement, on va se voir au Stade Canac dimanche pour les finales.
Un gros merci à tous pour le temps. C'est très agréable puis bon succès pour la suite.
Merci, Daniel.
Lors de la saison 2022, Marc José Miranda avait mené les Twins pour les points produits. L'année passée, ça s'est pas bien passé. Manque de production, incommodé par une blessure à une épaule. Ça lui a valu une rétrogradation au niveau 3A. Cette année, Marc, il n'a pas commencé l'année comme régulier, mais là, on n'est pas capable de le sortir de la formation. Non seulement ça, Marc, mais là, 12 coups sûrs de suite. C'est très, très impressionnant. Tu sais, à un moment donné, après 6, après 7, tu te dis que ça va arrêter. Mais non! Ça a continué jusqu'à 12, ce qui a gagné un record du baseball majeur. Comme quoi, Marc, ça peut changer très, très vite dans le baseball.
Ben, effectivement, il y a bien des choses dans ce que tu mentionnes. Premièrement, là, de réaliser 12 coups sûrs en 12, dans l'atome, dans le moustique, dans le pioui, dans le... Tu comprends? C'est difficile de faire ça dans n'importe quel... Ouais. Tu sais, que vous jouez à la softball, au base, peu importe, 12 en 12, c'est, je veux dire, c'est presque du jamais vu. Puis là, lui, il le fait au niveau des ligues majeures. C'est vraiment une situation extrêmement impressionnante, ce qu'il a fait. Mais, tu vois, Alain... Il a goûté aux ligues majeures, puis là, soudainement, paf, tu sais, t'as parlé de blessure, puis t'as parlé de rendement, puis il est retourné au niveau 3A. Lorsque tu goûtes au baseball majeur, c'est difficile de retourner dans les ligues mineures, puis de reprendre, puis de retrouver. En fait, c'est extrêmement motivant de tenter de revenir dans le baseball majeur. Et là, ben, je pense que cette année, lorsqu'on l'a rappelé, il s'est dit, il faut que je m'organise pour rester. Tu sais, il y a pas mille façons de le faire, Alain. Il faut que tu donnes des résultats à ton équipe. Faut que tu frappes, si t'es un frappeur, si t'es un lanceur, faut que tu lances. Tu comprends? Faut quelque chose. Et écoute, il a saisi sa chance. C'est aussi simple que ça. C'est une belle histoire présentement pour les Twins du Minnesota. On souhaite la même chose avec Édouard Julien. On souhaite la même chose avec Charles Leblanc, qui a goûté quand même à plusieurs matchs avec les Marlins, qui se retrouve, qui va très bien, soit dit en passant, au niveau 3 chez les Angels. Mais, tu sais, ce sont des histoires... Pour des joueurs comme Édouard Julien, justement, ou même Charles Leblanc, de se dire, c'est très motivant, là, tu sais, de continuer de performer au niveau 3A. On ne sait jamais, l'appel peut venir, on est de retour, puis là, on aide une équipe. Bon, tout spécialement les Twins qui sont évidemment dans une course pour une place en série. Donc, de belles histoires qu'on aime entendre et qui, certes, pourraient aider d'autres à se motiver et à trouver des solutions à revenir dans le baseball majeur et d'y rester, ce qui est la chose la plus difficile à faire pour un jeune joueur.
Oui. Marc, parlant d'exploits, les Dangereuses ont souligné au cours de la semaine le record d'Éric Gagné pour le plus grand nombre de sauvetages consécutifs, un exploit tout à fait remarquable. Je pense pas que ce record-là, on va être capable de le rejoindre de la façon, Marc, dont le baseball est joué aujourd'hui. Puis là, je m'explique, c'est que avec une avance, puis le coureur au deuxième en dixième manche, Éric Gagné n'avait pas à faire face à cette situation-là, alors que c'est le cas aujourd'hui. Puis tu vois, Ryan Helsley qui avait une belle séquence, c'est de cette façon-là que sa séquence a pris fin. Je vois pas comment un releveur numéro 1 aujourd'hui peut tenir le coup aussi longtemps dans le contexte actuel.
Non, tu as raison. Dans le contexte actuel, c'est pratiquement impossible. Et même si c'était le contexte, à l'époque d'Éric Gagné, ouais, ça aurait été déjà difficile à aller à la rattraper. C'est exceptionnel. Moi, ce qu'Éric Gagné a réalisé, j'ai eu la chance, Alain, j'étais évidemment à la radiodiffusion à l'époque des matchs des Expos, donc j'ai été transporté là, ou très près là, de cette magnifique saison ou en fait cette séquence d'Éric Gagné. C'était un exploit. Je pense que parfois, ça ne nous rentre pas dans la tête. Là, les gens disent « Ouais, mais là, bon, ce qui est avec le rapport Mitchell... » T'sais, ça n'enlève rien, selon moi, là, ce qu'Éric Gagné a réalisé. C'était exceptionnel. Il a changé l'habitude des gens de Los Angeles de rester jusqu'en fin de match. On voulait voir « Welcome to the jungle » puis d'Éric Gagné sortir de l'enclos puis terminer les matchs puis d'affronter un Barry Bonds puis sa balle rapide explosive avec son changement de vitesse. Moi, je me rappelle de m'être promené sur Hollywood Boulevard avec des, tu sais, les fameux fanions là qui sont sur les lampadaires, ouais, avec Éric Gagné avec son image avec ses goggles là dans les yeux, tu sais, c'était vraiment exceptionnel. Fait que je suis content que les Dodgers ont pris la peine de souligner cet exploit d'Éric Gagné, et je pense qu'Éric était très très flatté, très heureux de ce geste posé par les Dodgers.
Bon, Marc, on va finir avec la venue de quelques recrues. Un qui était très attendu, c'est James Wood avec les Nationals de Washington. Il y en a deux autres, Marc, qui ont quand même bien fait depuis leur arrivée. Brooks Lee avec Minnesota et l'autre qui fait pas partie de la même catégorie parce que c'était pas un prospect de premier plan, c'est Ben Rice avec les Yankees de New York. On parle vraiment, là, dans le cas de Lee et Wood, c'était des prospects. Wood, vraiment au sommet. Lee, on peut dire, un prospect légitime. Et Rice, ben lui, qui est apparu dans le radar là, à force d'accumuler des statistiques impressionnantes.
Exact. Écoute, moi, je trouve ça, encore une fois, on en a parlé un peu plus tôt, le baseball se rajeunit. On fait confiance à des jeunes. Les jeunes arrivent beaucoup plus mieux préparés. Mm-hmm. Tu sais, je regardais Wood, là, ma foi, là, il n'y a pas l'air grand-chose qui le dérange, lui-là. Là. Il avait même pas l'air nerveux à sa première présence. Ouais. Il avait l'air dans son salon, là, en train de regarder la télévision tellement il était calme. C'est fascinant de voir. Donc, non seulement physiquement, les gars sont prêts, parce que là, on les voit, sont costauds, mais ils sont capables de frapper des balles rapides à 99 000 à l'heure. Mais il y a aussi, au niveau de l'attitude, on a l'impression que les gars arrivent mieux préparés. Alors, bravo aux universitaires, les programmes universitaires, puis ce que les gens font, développement des joueurs dans les ligues mineures. Moi, je trouve ça fantastique de voir ces jeunes-là arriver. Puis, soit dit en passant, on parlait du match des étoiles, mais soulignons que Jackson Merrill des Padres est au match des étoiles cette année. Rappelle-toi, évidemment, joueur recru, jeune joueur sur qui on comptait beaucoup chez les Padres. Donc, c'est magnifique, ces histoires-là, Alain. Moi, je trouve ça... Tu sais, je veux pas partir de débat, mais j'aime mieux voir ces gars-là arriver puis de donner un spectacle que de traîner un vétéran de 37 ans qui... Tu comprends, là? Puis on passe tout par là lorsqu'on a 37 ans, puis on veut s'accrocher, là. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le baseball, je pense qu'on est mieux positionné avec des jeunes joueurs qui arrivent comme ça puis qui nous donnent un tel spectacle.
Oui, mais on l'a mentionné souvent, Marc. Est-ce que ça va changer? Est-ce que c'est en train de changer? Les joueurs autonomes que tu embauches après 6 ans dans le baseball majeur, quand tu arrives de l'université, Marc, t'approches 30 ans, puis regarde, je pense qu'il y a des équipes qui sont en train de le constater là, à la dure là, présentement, là, que peut-être la façon de faire, ben, c'est d'investir davantage dans ton réseau de filiales.
Ben, écoute, j'y ai toujours cru. Puis
ben oui.
Regarde toutes les équipes, Alain. Compare ce que les Expos ont fait là, dans les années 70-80, alors qu'on mettait l'accent là-dessus. Les Rays ont mis l'accent là-dessus. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. De quelle manière que les Astros se sont rebâtis, c'est parce qu'on s'est rebâti un réseau de filiales. Ça passe par là. Je veux dire, on a beau là, avoir tous les moyens du monde, ça passe par un réseau de filiales qui va permettre à ces équipes. Les Dodgers, pendant plusieurs années, ont quoi, cinq années consécutives, avaient la recrue de l'année. À un moment donné, ils se sont rebâtis de cette façon-là. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir comprendre que ça passe par le développement des joueurs, par le repêchage, de bons dépisteurs, puis et la suite va constamment être un succès. Alors, regarde les Blue Jays. On est pris en ce moment parce qu'on n'a pas un réseau. Après les Bichette, Guerrero et Biggio, ça a été un petit peu plus difficile d'aller chercher une espèce de 3-4 joueurs qui sont en train de monter en même temps. Là, on n'a pas ça présentement. Puis là, on est un petit peu pris avec, avec cette histoire-là.
Ouais, puis les lanceurs, à part Pearson, Marc et peut-être Romano, là, on n'a pas développé grand-chose au fil des années. La rotation, il n'y a personne qui vient du réseau de filiales. De ce côté-là, on est allé du côté des joueurs autonomes principalement. Ça nous a donné le réseau de filiales aux Eberrios, mais quand même, on n'a pas développé personne là, pour nous aider chez les lanceurs partants là, depuis plusieurs années chez les Blue Jays.
Puis ça te rattrape, Alain. Ça te rattrape. Je veux dire, je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Ça fait partie, je pense. Puis tu l'as dit, là, on s'est concentré beaucoup sur les stats avancées. C'est correct, il n'y a pas de problème, le baseball évolue. Ouais. Mais il ne faut pas négliger. Puis soit dit en passant, Alain, on n'en voit plus les fameux dépisteurs professionnels. On se fie seulement sur ce que le papier nous dit, là, les statistiques. Et ça aussi, je pense que ça va revenir, Alain. Je pense qu'on n'est pas satisfait d'avoir juste des données. Il faut que quelqu'un aille voir ce qui se passe pour donner le meilleur rapport possible sur l'équipe qu'on va affronter dans les 3 prochains jours, par exemple. Alors, c'est ça. Mais c'est correct. On vit des changements. C'est parfait comme ça. Ça évolue. Mais parfois, il faut réaliser que ce qui se faisait aussi avant n'était peut-être pas si mal si on le modifie quelque peu.
Oui. Dans certains cas, je pense que ça se fait... entre guillemets, là, de la maison, là, je pense qu'il y a des dépisteurs qui voyagent beaucoup moins qu'auparavant. N'empêche là, qu'il y a peut-être un juste milieu à avoir. Bon, c'est le temps de l'horaire des matchs de la semaine. Il y en a deux. L'horaire qui est présenté par la boutique des fans, c'est votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection située à Hawkesbury. En plus de vous offrir des cartes Pokémon, Magic the Gathering et des figurines Funko Pop, je vous invite à consulter le site laboutiquedesfans.ca. Deux matchs, on verra les meneurs de la section centrale de l'Américaine. Les Guardians de Cleveland qui ont délégué quand même quatre joueurs au match des étoiles, dont Ramirez et Naylor. Donc Cleveland qui jouera à Détroit. C'est à 18h30, je vous le souligne. Match présenté à RDS. Détroit qui vient de balayer en passant les Reds de Cincinnati qui, eux, venaient de balayer les Yankees de New York. Donc, on ne fera pas de deck de 3. Mais toujours est-il que Détroit joue en confiance. Et mercredi, ben là, manquez pas ça. Deux des meilleurs, sinon les deux meilleures équipes de la Ligue nationale, les Dodgers de Los Angeles, qui vont affronter les Phillies à Philadelphie. 19h, match présenté à RDS2. Évidemment, on est à l'affût au cours de la prochaine semaine parce que ça pourrait bouger sur le marché des transactions. On vous invite à être là lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Bye-bye.
Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville. Fier partenaire de votre passion.